Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Combien coûte à l'environnement une vidéo d'une youtubeuse, une émission en live d'un streamer et un court-métrage de fiction publié sur YouTube? Décor, lumière, régie, alimentation en électricité, transport du matériel de tournage et des équipes techniques, hébergement, pré-production, montage. Chaque étape de la création vidéo sur Internet a sa propre empreinte. Mais laquelle? Article d'Aurélie Defer et Louise Mohamedi pour le journal Le Monde. C'est ce que le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée CNC aimerait aujourd'hui voir calculer. L'établissement public français qui distribue un vaste spectre d'aides financières pour soutenir l'économie de la création et notamment les vidéastes du web, avec un fonds baptisé CNC Talent, devrait dans les mois qui viennent enjoindre à ces derniers de dresser un bilan carbone de leurs projets s'ils souhaitent les faire cofinancer. Anticiper l'impact. Cette mesure contraignante, qui concerne aussi prochainement le jeu vidéo, pourrait donner au monde des créateurs de contenu en ligne matière à réfléchir sur l'impact environnemental de leur activité. D'autant que, comme le souligne Amélie Deloche, cofondatrice du collectif Paye ton influence, les influenceurs se retrouvent depuis plusieurs années dans une course aux superproductions et au gigantisme, forcément liée à une empreinte environnementale qui augmente. Un influenceur de 3 millions d'abonnés émet autant de CO2 que 481 vols Paris-New York par an. Étude de l'agence dédiée au numérique responsable Footspring et de l'agence d'analyse de donneurs 1000Heads. Lorsque l'on sait qui est devenu le premier YouTuber de France, Monsieur Muscle, détrônant la première place depuis 5 ans avec plus de 18,9 millions d'abonnés sur la plateforme vidéo pour l'influenceur toulousain, pour sûr, la planète va être sauvée.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
France Service ou Maison de Service au Public, une structure qui combine accueil physique et accompagnement numérique. Un même lieu pour plusieurs services administratifs répartis sur l'ensemble du territoire. France Service, pour quel service? Les agents administratifs du Beaujolais nous répondent.
Élise Simsek, directrice du PIMS Médiation de Villefranche, labellisée France Service.
Valérie Teinturier, médiatrice numérique référente France Service sur la Maison du Rhône du Val-d'Ouin.
Je suis Saba Bousba, responsable de l'espace France Service de la ville de Tarare.
Alexandra Pêche-Berti-Voisin, médiatrice numérique à la Maison du Rhône de Anse France Service.
Alors France Service, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour répondre à la disparition un peu des services publics dans les milieux ruraux et notamment pour permettre à tous les usagers de pouvoir bénéficier d'un accompagnement concernant toutes les démarches en ligne, dématérialisées ou autres, en lien avec les services publics. Donc ça fait partie de nos missions, c'est d'accompagner donc les personnes dans les démarches en lien avec différents services publics. On a 10 opérateurs nationaux aujourd'hui qui sont associés à... Les France Services sont portés par des collectivités ou par de l'associatif, donc ça peut être par des collectivités territoriales ou des associations comme les PIMS. Et en fait, on a un label. France Services, c'est un label d'État pour lequel on répond à un cahier des charges qui nous permet d'obtenir ce label.
Alors, si j'ai bien compris, c'est un service uniquement en ligne, c'est ça?
Alors, on accompagne essentiellement les usagers par le biais du support numérique. Comme le disait ma collègue, vu qu'il y a une disparition des services publics, on peut éventuellement accompagner sur le format papier, mais l'intérêt, c'est d'automatiser les usagers.
On a la possibilité quand même d'avoir un présentiel, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Après, l'intérêt du France Service, c'est d'accompagner les usagers, éventuellement en leur créant des adresses mail et en leur créant justement leur compte Internet, afin de les faciliter dans leur démarche administrative et aussi sur un traitement beaucoup plus rapide.
Administrative, ça veut dire on peut absolument vous poser toutes sortes de questions sur les institutions en quelque sorte.
Oui, donc nous, il y a le bouquet France Service où là, ça regroupe donc les 10 opérateurs de l'État, donc CARSAT, CAF, MSA, France Travail, etc. Et puis nous, la particularité du PIMS Médiation, comme on est une association, on ne fait pas que du bouquet France Service. On fait par exemple des demandes de logement social, etc. Depuis cette année, on a aussi intégré tout ce qui était les chèques énergie dans le bouquet France Service. Donc c'est assez large, ça dépend aussi du France Service, si c'est une association ou si c'est porté par exemple. Récemment, il y a le CCI du Beaujolais qui porte un France Service à Lima, par exemple, depuis 2024. Voilà, ça dépend du France Service aussi.
Alors, est-ce qu'il y a des constantes aujourd'hui ou c'est vraiment de façon très générale que l'on vient vous consulter ?
Il y a des constantes comme les dossiers retraite pour la CARSAT, ça revient régulièrement. En ce moment, on est en pleine période pour les impôts aussi, donc c'est cyclique, tous les ans ça revient aussi. Et voilà, il y a des démarches qui sont cycliques et d'autres qui sont constantes toute l'année. Pour les cartes d'identité aussi avec la NTS, c'est assez régulier.
Aujourd'hui, vous avez un besoin de lisibilité, vous le sentez ou vraiment vous êtes très consulté ?
Je pense qu'on est bien identifié aujourd'hui. Clairement, au niveau de la lisibilité, on n'a pas de souci puisque les personnes ont vraiment identifié les structures. Elles viennent une première fois pour une première démarche, puis quand elles ont identifié le lieu, elles reviennent pour autre chose.
Feu vert, le 7 mai de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire a autorisé le démarrage de l'EPR de Flamanville, dans la Manche. Dès le lendemain, EDF a annoncé avoir commencé le premier chargement de combustible nucléaire. Une première étape vers la production d'électricité après 16 années de travaux et presque 12 ans de retard. Le point avec Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire, conseiller scientifique à la CRIRAD, commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Il est joint par téléphone.
L'ASN a autorisé le démarrage. EDF a chargé le combustible nucléaire dans le cœur du réacteur. Après, le démarrage effectif, ça va se faire sur des semaines et en réalité des mois, et EDF espère raccorder ce réacteur au réseau à la fin de l'année. Mais pour nous, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, en ce sens où il y a eu beaucoup de précipitations, malgré le retard, en fait, beaucoup de précipitations dans la conception et dans la réalisation de ce réacteur, ce qui fait qu'en fait, sur pratiquement tous les aspects du réacteur, il y a des défauts importants, soit de conception, soit de fabrication de pièces, soit de réalisation. Ça concerne aussi bien le génie civil, que le circuit primaire, que le circuit secondaire, que des éléments très importants pour la sûreté nucléaire. Et donc, par rapport à ce qui avait été annoncé par EDF il y a plusieurs décennies, au moment du lancement du projet EPR, réacteur qui produirait moins de déchets radioactifs, c'est déjà pas vrai, puisque le couvercle de la cuve du réacteur EPR de Flamanville n'est pas conforme. Il faudra donc la remplacer rapidement. Et l'autorité de sûreté nucléaire a autorisé le démarrage du réacteur avec un couvercle de cuve non conforme, ce qui fait que lorsqu'il faudra changer ce couvercle, a priori fin 2025, il sera devenu entre-temps, si le réacteur démarre effectivement, il sera devenu radioactif. Et il faudra gérer un déchet radioactif de 145 tonnes qui aurait pu être évité si l'ASN avait obligé EDF à changer ce couvercle dès sa réception dans quelques mois avant de démarrer le réacteur au préalable. Et donc c'est cette précipitation à vouloir démarrer à tout prix ce réacteur, même dans des mauvaises conditions, qui est préoccupante à la fois en termes de production de déchets radioactifs, en termes d'exposition aussi des travailleurs, parce que tous les défauts qui affectent ce réacteur conduisent à une augmentation des doses subies par les travailleurs.
Des doutes s'imposent à Flamanville, heurtés par une série de problèmes, souvent liés à des défauts de soudure, entre autres.
Dans les concepteurs du projet EPR, il y a déjà plusieurs décennies, hein, puisque c'est une idée qui date de la fin des années 80, l'idée c'est d'avoir un réacteur de la même technologie que ceux qui existent déjà en fonctionnement en France, réacteur à eau pressurisée, mais qui soit essentiellement plus sûr. Pour ça, ont été rajoutés des circuits redondants, par exemple, 4 boucles de refroidissement au lieu de 3, a été rajouté un récupérateur de corium, c'est-à-dire qu'en cas de fusion du cœur, les matières radioactives seraient récupérées au fond de la centrale. Mais tout ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que le premier réacteur EPR qui a été mis en service dans le monde à Taishan en Chine, il a été mis en service commercial fin 2018, a connu en 2021 de graves dysfonctionnements qui ont conduit à son arrêt pendant plus d'un an. Et la CRIRAD a révélé qu'en fait, ce qui s'était passé sur ce réacteur, c'est que du fait d'un défaut de conception, l'eau qui circule sous pression dans le circuit primaire, dans la cuve du réacteur, crée des vibrations intempestives qui ont plein de conséquences, dont la dégradation du combustible nucléaire. Et ce qui est ennuyeux, c'est que l'ASN a autorisé le démarrage du réacteur EPR de Flamanville sans que ce problème de conception ne soit résolu. Les causes n'en sont pas traitées, ne sont pas résolues. L'ASN demande simplement que d'ici à fin 2016, EDF propose des solutions et un calendrier de mise en œuvre de solutions. Autrement dit, on met la charrue complètement avant les bœufs, c'est-à-dire que l'ASN autorise le démarrage d'un réacteur nucléaire qui présente énormément de défauts et de problèmes de fond, problèmes de conception, qui ne sont pas résolus et qui ont des conséquences sur son fonctionnement même, sur la sûreté du dispositif.
Pourquoi la mise en service de l'EPR de Flamanville ne pouvait plus attendre?
C'est surtout pour des questions un petit peu commerciales, c'est-à-dire que EDF d'une part, mais la France en tant que nation, si on écoute les discours du président de la République, la France est symbole de l'énergie nucléaire, l'excellence française en nucléaire, et donc c'était très important pour EDF de démarrer ce réacteur EPR, mais c'est un démarrage coûte que coûte. Beaucoup de problèmes, de conception, de réalisation, et du coup, on peut considérer que c'est un réacteur qui va fonctionner avec pratiquement des rustines, puisque si vous rentrez dans les détails de ce réacteur, il y a par exemple, pour compenser les défauts de conception et d'implantation de soudure sur des tuyauteries très importantes pour la sûreté, des tuyauteries du circuit primaire, finalement EDF va implanter des espèces de colliers de serrage pour que s'il y avait une brèche, c'est-à-dire une fissure importante dans ces tuyauteries, la quantité d'eau perdue soit pas trop importante, pour que ça reste gérable d'un point de vue de sûreté nucléaire, mais simplement, c'est pas une bonne façon de travailler. On ne rajoute pas au dernier moment des immenses colliers de serrage sur des tuyaux dans un réacteur nucléaire pour garantir la sûreté. Et à travers cet exemple, ça illustre un petit peu toute une série de problèmes de cette nature, de réparation un peu à la va-vite, en quelque sorte, sur ce réacteur qui est vraiment mal conçu et mal réalisé.
Le chantier du troisième réacteur de la centrale nucléaire de Flamanville, dans la Manche, en Normandie, devrait s'achever à la fin de l'année 2024. Mais du côté des comptes, la facture ne cesse de s'alourdir. Depuis la création du projet, en 2007, le coût prévisionnel de construction de l'EPR, réacteur pressurisé européen, a été réévalué à la hausse à 8 reprises et a été multiplié par 4, soit 3,3 milliards d'euros au lancement à 13,2 milliards en décembre 2022, selon les derniers chiffres du groupe EDF. D'après une estimation réalisée par la Cour des comptes en août 2020, ces coûts s'élèveraient plutôt à 19,1 milliards d'euros pour une hausse totale de 5,8% par rapport au prix initial. Ils englobent notamment les frais financiers intercalaires, les dépenses liées à la pré-exploitation, à l'aménagement et au stock de pièces détachées. Affaire à suivre.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.